tout d'abord bonjour aux assistants nombreux et laisser un peu de place pour ceux qui arriveront en retard. Pourquoi d'abord faire une table ronde autour de la SF italienne? D'abord, je dirais la première raison, c'est que les Italiens sont probablement nos plus proches ou peut-être nos meilleurs voisins depuis d'abord très très longtemps, mais même en science-fiction, en dehors évidemment de toute l'influence anglo-saxonne qu'il a pu y avoir, au niveau en tout cas européen, depuis longtemps, les auteurs, je dirais, qui sont... plus rapidement ont été traduits en France, ont été en règle générale les Italiens. En tout cas, dans la revue Fiction, à partir du moment où ils ont fait des numéros spéciaux qui n'étaient pas donc des spéciaux anglo-saxons ou français, ça a été d'abord des spéciaux italiens. Bon, après, quelques autres pays sont arrivés, mais enfin. Il y a aussi, oui, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Il y a eu deux anthologies italiennes avant qu'il y en ait eu une anthologie allemande. Et en plus, déjà, les auteurs italiens intervenaient dans les numéros courants de la revue Fiction bien avant les Allemands ou autres. Alors, peut-être aussi la proximité de la langue ou autre a peut-être joué un rôle. Et d'autre part, je dirais, il ne faut pas oublier qu'une des premières revues enfin, qui est apparue en France vers la fin des années 60, c'était Au-delà du ciel, qui était la traduction, entre guillemets, française de la revue Oltre il cielo. Bon. Donc voilà, la raison en plus de faire une table ronde sur ce thème, c'est tout simplement que, d'abord, on a eu l'arrivée d'auteurs importants comme Valerio Evangelisti et quelques autres, et d'autre part, il y a une affiche qui est ici, si elle n'est pas tombée, je pense que c'est bon. Dans un prochain numéro de Lunatique, le numéro sera consacré à la science-fiction italienne, avec quelques auteurs, je dirais encore un petit peu anciens, et puis des nouveaux auteurs. Voilà. Bon, ça c'était une introduction, je ne veux pas m'éterniser davantage. Je vais d'abord laisser la parole à Pierre, puisque je crois qu'il va s'en aller dans un petit moment, pour qu'il nous parle un petit peu justement de ce qui va se passer dans un avenir assez proche, là où les revues, comme vous voudrez, dont il a la charge.
Voilà, dans la revue Galaxy, qui accueille, comme vous le savez maintenant depuis 2 ans, Lunatique 2 fois par an. Et Jean-Pierre m'a parlé il y a un peu moins d'un an de cette idée de faire un numéro spécial Italie. C'est quelque chose qui cadre tout à fait avec la ligne de Galaxy, qui consiste à essayer d'établir des ponts avec d'autres science-fiction. Alors on va parfois jeter nos filets très loin, comme en Chine dans le numéro précédent, mais il faut effectivement pas oublier ce qui existe sur le continent européen, de près de chez nous. Et puis finalement, pour Galaxy, et ça c'est un clin d'œil, c'est un peu un retour aux sources anciennes, puisqu'on en arrive au 60e anniversaire des revues Galaxy en France. Et les revues Galaxy en France viennent de Galaxy avec un Y américain, qui lui-même était une revue lancée par des capitaux, donc on ne sait pas bien quelle était la couleur entre le blanc et le gris, etc. Mais italien, puisqu'il s'agissait d'une maison d'édition qui publiait d'ailleurs surtout des romans à l'eau de rose et des nouvelles romantiques et sentimentales, et qui a voulu transposer aux États-Unis. Ça n'a pas marché du tout. Ils se sont dit, tiens, il y a un truc qui marche, c'est la science-fiction. Et ils ont lancé de cette manière ce Galaxy. Donc, un peu un retour aux sources. Aussi, une satisfaction, c'est pas la première fois que nous allons publier dans Galaxy des auteurs italiens. Ça doit être... la 3e ou 4e fois, avec même des auteurs dont on ne sait pas bien s'ils sont italiens ou d'origine italienne, et je pense à certains à cette table, avec une nouvelle qui, je crois, avait d'abord été publiée en italien et en Italie avant d'être publiée en France, une nouvelle de Jean-Pierre. Et puis, des souvenirs, je pense que c'est pas loin de Jean-Pierre Fontana. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette affaire. Aussi un souvenir de fouilles dans des rayons de bouquinistes, je crois que c'était pas loin de Termini, où j'avais trouvé quelques textes de science-fiction italienne, et j'avais mis au point ce jour-là une méthode express d'apprentissage de l'italien. C'est un Blue Lagoon et un Martini Gin le soir. Ensuite, on se met au lit avec les revues, et le lendemain matin, on se souvient qu'on ne parlait pas italien. Mais on les a lus entre-temps, donc c'est très très efficace. Voilà. Je suis prêt à partager cette expérience avec tous ceux qui le veulent.
Oui, c'est plus sympa.
Oui. Voilà. Bon, alors nous allons donc sortir ce Galaxy Lunatique ou Lunatique Galaxy. Un moment d'ailleurs, on s'était demandé si ce ne serait pas un Galaxy tout court, parce que le sujet était tout à fait intéressant, puis finalement, on a pris cette formule. Jean-Pierre, donc Fontana, a préparé un article très documenté, avec beaucoup d'illustrations aussi, sur l'histoire de la science-fiction italienne, et c'est d'accompagner de 13 nouvelles, oui. De 13 nouvelles qui effectivement s'étalent sur toute la durée de cette histoire, avec, pariez d'ailleurs, de Valerio Evangelisti, il est dedans, et puis Selene Verri est également dans le... j'allais dire dans le cheptel, non, ça serait pas bien comme mot, dans le groupe de ces auteurs, donc beaucoup de découvertes à réaliser, je pense, pour ceux en tout cas qui ne les connaissaient pas dans leur langue d'origine, et pour Galaxy, un grand merci à Jean-Pierre pour avoir Fontana toujours. Mais on te remercie aussi pour avoir préparé ce numéro, réuni ces textes, veillé à ce qu'ils soient traduits, et finalement fait tout le boulot du rédacteur en chef qui me permette à moi simplement de signer l'ours à la fin en disant, vous voyez, c'est Galaxy, mais bon, c'est quand même un peu beaucoup Lunatique. Oui. Merci.
Je voudrais juste, excuse-moi, ajouter une petite chose dans les remerciements. Les traducteurs qui ont participé fortement à l'élaboration de ce numéro, dont je voudrais les remercier, c'est Pierre-Jean Brouillot d'abord et Adriana Lorusso.
Bon, moi je voudrais d'abord me présenter, Jean-Pierre Gaigle. Mon histoire d'amour avec la science-fiction italienne a commencé quand j'étais étudiant à Nice. Je pouvais franchir la frontière et aller écumer les bouquinistes de San Remo. J'ai traduit également dans Antares une vingtaine de nouvelles de science-fiction italienne, plus trois ou quatre courts romans italiens, dont un qui n'a jamais paru en italien. J'ai continué également, tout simplement parce que j'avais en ma possession des textes que je recevais directement des auteurs. Et également, j'ai traduit une nouvelle italienne pour fiction, et j'ai commencé à me remettre à traduire de l'italien pour Wendigo. Dans le précédent numéro, il y avait une nouvelle fantastique italienne que je n'ai pas traduite, mais dans le prochain, il y en aura une autre du même auteur que j'ai traduite. Je dois ajouter également que je me suis intéressé à la proto-science-fiction italienne. J'en parle d'ailleurs dans mon recueil d'études sur les thématiques de la science-fiction. J'ai écrit d'autres essais où il est question de textes, de vieux textes italiens qui lui paraîtront prochainement, notamment dans Solaris, au Canada. Voilà, c'est à peu près tout.
Bien, alors je vais faire à la limite une parenthèse en reprenant la parole. Personnellement, j'ai découvert la science-fiction, je devais avoir 7 ou 8 ans, donc j'étais j'étais pas un lecteur particulièrement précoce, mais enfin, donc dans ma prime enfance, pratiquement, le premier livre que j'ai lu, dont je me souviens avoir lu, c'est Le tunnel sous la mer de Luigi Motta. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison ce bouquin était chez nous, mais puisque c'était une édition des Talendiers, ce qu'on appelait les Talendiers bleus, mais mes parents étant italiens, donc mon père et ma mère, c'est peut-être la raison pour laquelle ce roman se trouvait là. Enfin, c'est une des raisons, disons. Mais en fait, ma véritable découverte de la science-fiction italienne remonte à l'époque où la revue Fiction a publié le premier spécial Italie, concocté par Roland Straliati. Et pour moi, ça a été une véritable découverte. Peu de temps après, j'ai lancé le fanzine Mercury, et dès les premiers numéros, j'ai eu des contacts avec l'Italie, et j'ai publié des auteurs italiens. Alors, c'était des nouvelles assez courtes, j'essayais de trouver des traducteurs, c'était pas toujours satisfaisant, et je me suis aperçu, n'ayant jamais appris l'italien, moi j'étais dans une école Michelin, on n'apprenait pas l'italien, et j'ai pas eu, je dirais, cette chance, mais je me suis aperçu que j'arrivais à le lire assez facilement, tout simplement parce que quand j'étais enfant, mes parents recevaient des amis ou on allait chez des amis, ça parlait italien, et je me suis rendu compte que je comprenais tout à fait ce qu'ils disaient. Ça, c'est le problème de la prime enfance, on s'habitue très vite aux langues. Et un jour, j'en ai donc parlé à Roland Straliati, notamment quelques années plus tard, lorsque j'ai concocté un second fiction spéciale italien, en lui disant oui, mais moi l'italien j'ai quand même des lacunes, etc. Il m'a dit écoute, ça c'est pas un problème, ce qui compte d'abord c'est que tu saches écrire en français. Voilà. Alors après, il est évident, quand on a des problèmes, moi je me souviens, ayant traduit Lino Aldani, qui parfois en plus utilisait des termes de dialecte, alors dans nos correspondances, il me faisait des petits dessins pour m'expliquer ce que c'était. Enfin, c'était assez amusant. Donc voilà. Et alors, toujours dans les anecdotes, et je vais en rester là parce que j'ai des gens à côté de moi qui ont sûrement beaucoup plus de choses intéressantes à dire. On parlait, enfin, Jean-Pierre, qui est à côté de moi, qui disait qu'il avait traduit en France un roman italien qui n'était pas paru en Italie. Il y a quand même le cas d'un auteur français, enfin, une auteure française, qui a publié un roman en Italie, et ce roman n'est jamais paru en France, et j'aurais bien aimé le publier, mais il est introuvable. Enfin, j'espère qu'on le trouvera peut-être un jour, mais j'ai eu beau questionner ça, son frère et sa nièce, en tout cas ils n'en ont pas un exemplaire. Il s'agit naturellement de Christine Renard, dont le roman a été publié dans la collection Urania, ouais. Ça fait déjà un bail, et c'est un petit peu dommage évidemment de pas pouvoir retrouver ce roman.
Oui, je peux apporter une précision, j'avais parlé à Christine Renard de ce roman là elle m'avait dit d'abord qu'elle n'avait jamais été payée.
Ça, c'est grave. Ensuite, c'est pas impossible.
Ensuite, qu'elle avait perdu le texte français. Ouais. Et donc, il faudrait le retraduire, le retraduire de l'italien. Ce roman, dont le titre français s'appelle L'enfance des dieux, en français, est une histoire de mutants.
Oui, enfin bon, donc voilà, effectivement, on peut le publier, alors ça sera un roman de Christine Renard, traduit en Italie et retraduit en français.
Oui, alors ce n'est pas le seul roman français, inédit en français, mais qu'on peut trouver en italien, il y en a quelques autres. Moi-même, j'ai publié en Italie une nouvelle qui s'intitule « Texte de Vulcain » l'année dernière et qui devrait paraître en 2014 dans Galaxy. Enfin, le rédacteur me l'a promis.
Je confirme.
Bien, je vais passer la parole. Alors, je vais aller tout de suite. Non, je vais aller à l'extrême gauche parce que Séléné va pouvoir après développer beaucoup plus longuement tout ce qui concerne l'Italie, l'Italie surtout, je dirais, l'après peut-être Évangélici. Hein, on aura l'occasion d'y revenir. Je pense qu'on parle un petit peu d'une manière un petit peu éclatée, mais c'est peut-être pas plus mal parce que, encore une fois, on ne va pas refaire l'histoire de la science-fiction italienne. Vous trouverez ça dans la revue. Fulminatique dans quelques mois, donc on ne va pas le refaire ici. Alors, je te laisse la parole. D'abord, Alors, disons, quels sont tes rapports avec l'Italie? En quoi, disons, la science-fiction italienne peut t'intéresser? Quels sont tes rapports avec, etc.?
Dunque, grazie prima. Dunque, Ugo Belagamba, famosissimo autore italiano, che è stato invitato qui a Aubena. Allora, anche se il mio francese non è del tutto perfetto, proverò a parlare in francese, che è il minimo della gentilezza. Donc, mon rapport à la SF italienne, et je remercie beaucoup Jean-Pierre Fontana de me proposer cette table ronde avec lui et avec tout le monde, c'est un rapport d'enfance, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que mon papa est italien, et il m'a toujours parlé en italien, et les portes d'entrée sur la culture italienne étaient d'une part l'histoire, et l'histoire italienne de l'Antiquité, mais pas uniquement de l'Antiquité, et puis la bande dessinée, la science-fiction. Et donc, assez tôt, dès que j'ai pu un peu lire en italien pendant mon enfance, j'ai commencé à lire Topolino, ça c'était le point de départ. Topolino, non la Fantascienza, c'est la Fantascienza.
Oui, Mickey.
Mickey, voilà, Mickey, il fumait italien, voilà. Et puis après Mickey, bah, très rapidement, ça a été des textes alors, en italien, dans la collection Ulagna, qui est là, et qui a connu maintes, je dirais, métampsychoses, réincarnations et relances. Donc j'ai toujours eu voilà, des ouragnes à la maison. Chaque fois que j'allais en Italie, j'en ramenais. Et alors au début, mon rapport à la science-fiction italienne était un petit peu biaisé, parce qu'en réalité, eh bien, je n'avais pas réalisé que certains des auteurs que je lisais en italien étaient en fait des auteurs américains. Et donc, moi j'ai aimé la SF italienne, notamment en découvrant par exemple en italien des grands auteurs américains qui étaient publiés dans Ouragnes. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, qu'il y avait aussi beaucoup d'auteurs italiens, bien sûr, mais je me suis rendu compte après coup, que l'imprégnation de la SF américaine en Italie était très forte. Et par exemple, un certain nombre d'auteurs américains ont toujours été disponibles en Italie, quelle que soit la période. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans les grandes librairies à Rome ou n'importe où en Italie, où je dis à Rome parce que c'est là-bas souvent que je vais, on trouve énormément de choix d'auteurs américains, notamment d'auteurs américains de hard science. Oui.
À l'époque de la gestion Frutero-Lucentini, c'était les années 70, un des deux, je ne sais plus si Frutero-Lucentini avait dit une phrase qui est restée dans l'histoire de la science-fiction italienne, c'est « Les extraterrestres ne vont pas atterrir à Lucca ». Alors, on n'a jamais compris pourquoi Lucca, parce qu'il y a plein de villes en Italie. Ouais. Mais alors, leur idée était qu'on ne pouvait pas faire de la science-fiction en Italie, dans le sens d'une science-fiction vraiment italienne. Après, les choses ont évolué différemment, mais c'est resté.
Alors, c'est très bien cette intervention, parce que justement, elle me permet de dire que petit à petit, malgré tout, malgré cette forte imprégnation américaine qu'on peut... J'imagine qu'on peut interpréter de tout un tas de manières, et notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec l'importance des rapports entre l'Italie et les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Il y a une SF, évidemment, une science-fiction purement nationalement, je dirais, italienne, que j'ai découvert, mais plus tard. Et du coup, les grands auteurs italiens classiques ne m'ont pas forcément marqué sur le coup. En revanche, toute la nouvelle génération d'auteurs que j'ai connue quand j'ai commencé moi-même à publier, ou en tout cas à être actif dans les milieux de la science-fiction en France, m'ont accompagné. Alors, tout à l'heure, on en parlait avec Séléné, donc Evangelisti, bien sûr, mais aussi Luca Masali, Franco Riccardiello, et puis beaucoup de nouvelles aussi que j'ai pu trouver, que je lisais parfois en français quand elles étaient traduites, mais sinon en italien. Bref, pour dire encore un mot et pour passer la parole aux vrais spécialistes, pour moi, la science-fiction italienne a toujours été une partie intégrante de ma culture de science-fiction. Et je pense qu'il y a, c'est un de mes vieux dadas d'ailleurs, je pense qu'il y a des marquages nationaux de la science-fiction et qu'il est vain de les nier. Il y a des identités françaises, italiennes, d'Europe de l'Est, etc. Que l'on retrouve, et l'une des marques de la science-fiction italienne, je pense que c'est pas simplement cet humour, cette dérision, cette légèreté, mais aussi, parce qu'il y a eu une grande influence des Américains, cet attachement au code de la science-fiction, au mécanisme de la science-fiction, Ce qui fait qu'on peut très bien lire des auteurs italiens sans aucune difficulté après traduction. On se reconnaît tout à fait dans la science-fiction, dans même ce qu'on pourrait appeler le cœur de la science-fiction. Voilà. Ce qui n'est pas toujours vrai avec la SF française. Je trouve que souvent la SF française, pour se démarquer, sans parler d'exception culturelle, hein, a eu tendance à s'éloigner du modèle américain, comme si c'était une manière absolument inévitable de procéder. Alors que les Italiens...
Les anciens français...
Oui.
C'est pas des marques. Quand on se réfère à des auteurs pré-américains...
Oui, tout à fait. Les auteurs américains, pré-américains. Là, je parle des auteurs plutôt des années 50-60. Oui. Alors que les auteurs italiens, mais Georges a raison de préciser, n'ont pas cherché de rupture. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont adopté cet héritage et s'en sont parfaitement emparés. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et merci de m'avoir invité à parler.
Oui, pour compléter ce que tu disais, puisque tu parlais de Urania, il y avait aussi une collection qui s'appelait Cosmo, etc. À l'époque, à j'irais deux exceptions près, les auteurs italiens prenaient toujours, enfin au niveau des romans en tout cas, prenaient toujours des pseudonymes. Malaguti, par exemple, publié sous le nom de Hugues Maillon, autant que je me souvienne. Enfin bon, je ne veux pas redonner des tas d'exemples comme ça, ça n'a peut-être pas forcément un grand intérêt. Mais très rapidement aussi, je dirais qu'il y a eu pratiquement deux écoles. L'école du roman qui était tout à fait presque comparable au roman américain, on était tout à fait dans ce modèle, et un modèle avec des auteurs peut-être plus indépendants, comme justement, enfin, j'ai cité Lynn Waldani parce que c'est le plus connu, où là, moi ça m'avait frappé lorsque j'ai réalisé le livre d'or de la SF italienne. Je donne simplement un exemple, un auteur qui s'appelait Roberto Vac, qui m'avait envoyé une nouvelle qui s'appelait, je le donne le titre en français, « Le dernier pape ». Et il n'y avait qu'un Italien qui pouvait avoir écrit une histoire comme celle-là, où on se trouve dans un monde futur, où, je dirais, la religion catholique a pratiquement complètement disparu, mais on a gardé quand même le Vatican, et on fait visiter, et les gens, à travers un petit tublot, voient un petit peu le pape dans ses journées traditionnelles. Donc voilà, ça fait partie de la visite. Il y avait aussi une nouvelle de Renato Pestriniero, qui se passe, c'est un auteur vénitien, où on visite Venise, qui a été engloutie sous les eaux, etc. Je me souviens d'une nouvelle d'Aldani qui s'imprègne de la République indépendante qui était montée par les résistants à l'époque de la guerre. Enfin, donc ces auteurs-là étaient beaucoup plus proches, je dirais, d'une certaine actualité, même transposée dans le futur, une certaine actualité de la vie italienne, mais qui était forcément très marginalisée par rapport aux auteurs traditionnels de romans, dont voilà.
Oui, je voudrais apporter une précision. Jusqu'en 1980, les nouvelles de science-fiction italienne étaient très marquées par un caractère national, alors que les romans étaient beaucoup plus influencés par la science-fiction américaine. On pouvait dire que jusqu'en 1980, les Italiens étaient de mauvais romanciers de science-fiction, mais d'excellents nouvellistes. Ça a changé par la suite, et on a vu commencer à arriver un certain nombre de romanciers italiens de science-fiction qui étaient plus personnels. Je pense que cette tendance est importante.
Bon, je vais laisser la parole à Sélénée, parce que c'est en fait certainement parmi nous celle qui connaît le mieux le problème, pour des raisons tout à fait évidentes, hein, puisque bon, d'abord elle est italienne, même si elle vit en France et si elle participe totalement, je dirais, aux activités de la science-fiction nationale, et j'ai eu le plaisir de la publier déjà, enfin une reprise, et elle va figurer d'ailleurs dans l'anthologie, si je puis dire, enfin dans le numéro qui va être consacré à la SF italienne. Juste quand même deux, trois mots sur ce numéro. Vous aurez d'ailleurs, je dirais, les différentes tendances qu'il peut y avoir dans la science-fiction italienne actuelle, c'est-à-dire que des nouvelles on retrouve encore Pestriniero avec une nouvelle qui est très imprégnée dans un Venise décadent, si je puis dire. Bon, je ne veux pas citer toutes les nouvelles, mais effectivement, on aura donc différentes tendances, et c'est un peu ce que j'ai voulu, et ce qu'a voulu Pierre-Jean Brouillot, qui m'a énormément aidé pour réaliser ce numéro, parce que mes activités aussi ne me permettent pas de tout faire, hein, donc quelquefois il faut se faire accompagner ou aider. Mais d'autre part, participe à ce numéro des auteurs donc un peu anciens, des auteurs confirmés, peut-être pas très connus en France, mais enfin en tout cas confirmés en Italie, et puis je dirais des jeunes pousses avec des textes pas forcément tous de la même qualité, mais en tout cas tous intéressants parce qu'ils montrent une grande variété de ce qui se fait là-bas, comme c'est d'ailleurs le cas chez nous, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc on ne va pas quand même ici refaire l'histoire de la science-fiction italienne, mais c'est ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir ce qui se passe actuellement chez eux. Une dernière précision aussi que j'avais signalée lorsqu'il y a eu la table ronde sur l'histoire des conventions. En Italie, les conventions ont démarré, je dirais, au moins en tout cas 10 ou 15 ans avant que les conventions se fassent en France.
Oui, voilà. Dans les années 60, en fait.
Bonjour à tous. Donc, pour les deux ou trois qui ne me connaissent pas, je suis Serena Verri, journaliste italienne. J'ai voulu cette table ronde parce que je me suis aperçu que, pour la même raison pour laquelle j'ai voulu une table ronde sur la SF européenne, où je parlais de la SF française en Italie il y a quelques années, et parce qu'on ne se connaît pas, en fait. Les Italiens ne connaissent pas la science-fiction française et les Français ne connaissent pas la science-fiction italienne. Et je vais être un peu arrogante là, parce que je vais vous dire, en fait, même ce dossier dirigé par Jean-Pierre et tout ça, ne reflète pas du tout la réalité italienne, je suis désolée. En fait, il y a des noms là-dedans que je n'ai jamais entendus en Italie. Moi-même, je suis connue beaucoup dans le fandom, mais comme journaliste, pas comme écrivaine. J'ai publié deux nouvelles en tout, une était là-dedans et l'autre sur Internet. Et les deux ont été publiés en France, bon, grâce à Jean-Pierre. Donc vraiment, il y a une vision un peu déformée, je trouve, de la science-fiction italienne en France. Ceci dit, Urania, c'est vrai que c'est... On ne peut pas ne pas en parler. En fait, il y a deux jours, quand on a fait la table ronde sur les livres qui nous ont marqués, qui vous ont marqués, et sur ceux qui vous ont initié à la science-fiction, moi, ça m'a beaucoup étonné de voir que tout le monde se rappelait du premier bouquin qu'ils avaient lu, bouquin de science-fiction qu'ils avaient lu. Moi, je ne veux pas dire. Pour moi, c'était Urania. Je ne connaissais même pas les titres. Je les lisais. On partait en vacances l'été. Mon père les achetait au kiosque. Et moi, je les lisais. Je ne savais pas qui était l'auteur. J'oubliais tout de suite le titre. Je lisais comme je lisais justement Topolino, comme disait Hugo. Donc, Urania est vraiment la porte d'entrée pour les Italiens de la science-fiction. Ou au moins, elle a été, parce que bon, ça fait plusieurs années qu'elle est en crise. Au départ, elle a fêté les 60 ans l'année dernière. C'est justement la revue la plus ancienne qui soit encore en vie en Italie. Et ça reste en vie justement parce que c'est une revue prestigieuse, parce que c'est Mondadori. Et Mondadori, bon, n'a pas trop de problèmes, même si ça ne vend pas suffisamment, parce que c'est une marque quand même. J'ai même des chiffres, c'est pas très récent, mais ça peut être intéressant pour vous. On a un tirage de à peu près 13 000 exemplaires pour Urania, la collection principale, parce qu'après il y a des sous-collections. 14 000 de tirage pour Mille Mondi, qui est la sous-collection de... En fait, ils mettent deux ou trois romans dans le même bouquin. e à peu près 10 000 pour Urania Collezione, qui sont les classiques, en fait, c'est ça. Et au niveau de vente, on a 5 000 exemplaires pour Urania Collezione, 7 000 Urania, le principal, et 9 000 pour le Mille Monti. Donc,
oui.
Alors, juste, je me permets d'ajouter un mot qui est un souvenir. Hein. En fait, André-François Hugo parlait justement, il disait que c'était inimaginable de penser fiction en kiosque. Et en fait, en Italie, Urania était en kiosque, et moi je m'en rappelle très bien. Et les Italiens achetaient Urania, enfin, quand j'allais acheter Urania, c'était on prenait le journal, La Repubblica et Corriere della Sera, Il Topolino ou Il Tex, les publications Bonelli, quoi, de Fumetti, et Urania. Et en fait, ça c'est quelque chose de fabuleux. Moi j'ai ce souvenir extrêmement chaleureux de l'Italie qui. Les gens vont acheter de la science-fiction en kiosque et c'est vraiment un geste presque naturel. Quoi. Donc, les tirages que tu annonces là, même aujourd'hui, sont remarquables. Quoi. Ils sont tout
oui.
à fait...
Je voudrais apporter une précision. Séguéné a parlé, à propos d'Urania, qui a commencé en 1952, a parlé de magazine. Mais en fait, pour nous, c'est une formule qui correspond à une collection de science-fiction, à des livres. Bon, ce sont les particularités des conceptions éditoriales entre la France et l'Allemagne qui sont différentes. Mais en fait, c'est une vraie collection. Il faut préciser cela pour les lecteurs français.
Le gros problème d'Urania est que, alors, au départ, c'était hebdomadaire, puis c'est passé tous les 15 jours, maintenant c'est mensuel. Non seulement c'est mensuel, mais un mois, on publie une nouveauté, ou du moins quelque chose qui n'a jamais été publié avant, comme ça, même si c'est vieux, ça n'a jamais été publié, c'est un James Tiptree. Et un autre mois, on publie une réimpression, donc même pas une réédition, mais une réimpression de quelque chose qui a déjà été édité. Mais le gros problème, c'est que ça dure un mois, et après ça disparaît, ça passe pas dans les librairies. Donc, et en plus, ils ne gardent pas les vieux numéros. Donc, si quelqu'un veut racheter, moi je connais personnellement Giuseppe Lippi, le directeur de collection. Lui, quand il doit chercher un vieux numéro, il va voir les bouquinistes. Parce qu'ils n'ont pas de stock. Quoi. Donc, c'est une vraie crise. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'autre part, qui bougent en Italie. Déjà, il y a une nouvelle revue de kiosque, ça c'est assez étonnant, qui vient de paraître et qui est, encore plus étonnamment, la version italienne de Fantasy and Science Fiction. Donc vous avez fiction qui dure depuis longtemps, nous on ne l'a jamais eu. Et c'est vraiment tout neuf, on est au deuxième numéro, je pense.
Oui, oui. Mais une précision, il y a eu quand même deux tentatives précédentes d'édition italienne de fantasy and science fiction qui ont échoué. La première au début des années 50 chez Carsanti, et puis une autre tentative dont je ne me souviens pas.
Là, en plus, c'est une opération extrêmement courageuse parce que je sais que les premiers numéros vont être tirés à 15 000 exemplaires.
Oui, mais c'est vraiment pas cher, hein, le prix de chaque numéro. Et ça vient d'un éditeur qui est en très grande difficulté, en
plus.
Ouais.
C'est l'éditeur qui, justement, a pris le relais de
Perseoli,
qui était la maison d'édition de Ugo Malacuti. Donc il y a ça, déjà, comme quelque chose de nouveau. Et par contre... Nouveau et vieux en même temps, c'est Robot. Robot, c'est une revue ancienne et en même temps récente, parce qu'elle est née avec presque avec ce même format aux années 70. Elle vendait énormément, mais elle a duré 3 ans parce qu'à un moment donné, elle vendait que 10 000 exemplaires. Donc, en plus, il y a eu des polémiques après politiques à l'intérieur de la rédaction. Donc, alors là, je veux partager avec vous un souvenir. Quand ça a été lancé, la nouvelle série, c'était en 92, fin 92, et c'était pendant une manifestation qui s'appelait Futuro in Gioco. C'était une convention de jeux où il y avait une partie de science-fiction, et c'était pendant cette manifestation qu'on avait invité aussi Roland Wagner, et c'est là que je l'ai connu et que j'étais son accompagnatrice. Donc j'ai ces deux souvenirs très forts et très émouvants en même temps de la première fois que j'ai rencontré Roland et le lancement de cette revue qui a été vraiment c'était une surprise. Le lancement a été fait vraiment tout a été fait en cachette, donc personne ne savait ce qui allait se passer. On a annoncé cette rencontre et là ils ont annoncé ça, et c'était très émouvant pour les gens qui connaissaient cette revue, qui est une revue historique. Et là, alors c'est complètement différent de Urania, évidemment, parce que Urania est justement un livre. Là aussi, bon, c'est des petits livres, mais c'est une vraie revue avec des articles, avec des nouvelles. Et par rapport à la question des nouvelles dont parlait l'aigle, je pense qu'encore aujourd'hui, les Italiens sont beaucoup plus forts dans la nouvelle que dans le roman. Et c'est la raison pour laquelle, quand Urania, c'est une des raisons pour lesquelles, quand Urania essaye de publier des Italiens, ça ne marche pas. Il y a une chute de ventes énorme. Et ça a été fait souvent récemment, je ne sais plus si pendant la gestion d'Azzieri ou Altieri, mais alors en fait, Urania a un prix qui s'appelle le prix Urania, qui permet de publier en italien toutes les années, au moins en italien toutes les années. Et, à un moment donné, on a décidé que comme les romans qui arrivaient au prix étaient souvent très bons, même s'ils n'avaient pas gagné, on a décidé de publier aussi les deuxièmes arrivés. Mais bon, le problème c'est que ça ne marche pas, la qualité n'est pas toujours à la hauteur. Je pense en particulier à un auteur qui est très coté en ce moment, qui s'appelle Dario Tonani. Alors, Dario Tonani est vraiment une star en ce moment. Et je vais vous dire pourquoi après que j'aurai parlé de ses romans. Parce que ses romans, en fait, le problème est qu'il n'y a pas une histoire. Lui, il écrit merveilleusement. C'est un vrai écrivain. Mais il n'arrive pas à tenir une histoire pour un roman. C'est son principal défaut. Ce qui se passe, c'est qu'il a publié des nouvelles en e-book. Ça a super bien marché. Donc, on a publié, un autre éditeur a publié les mêmes nouvelles en papier. Oui. Et maintenant, il est sorti aux États-Unis et il est sorti au Japon. Donc, c'est un vrai succès éditorial. Et c'est pas par hasard, parce que tous ceux que j'ai interpellés avant de venir à cette table ronde m'ont dit le futur de la science-fiction italienne est dans l'e-book. C'est vrai que ça marche très bien, l'e-book. C'est étonnant parce que l'Italie n'est pas vraiment un pays d'avant-garde, mais évidemment, les lecteurs de science-fiction sont plus prêts à comment dire, à embrace, à accueillir les nouveautés. Donc oui, c'est ça, le e-book marche bien en Italie, et donc Tonani a trouvé son créneau tout de suite. Et donc ça c'est le vrai auteur à tenir en considération, je pense, si quelqu'un voulait publier en italien en France. Un autre qui marche très bien en ce moment est Francesco Verso, et c'est un autre qui, alors lui il a gagné le prix Urania par contre avec un roman super mauvais qui a fait beaucoup parler de soi à cause de ça, mais lui, je dois dire, je n'ai jamais connu un écrivain plus humble. Il a complètement accepté et assumé les critiques, il a travaillé énormément et il a sorti un bouquin qui apparemment, je l'ai téléchargé, je ne l'ai pas encore lu, mais apparemment, est vraiment, bah, tout le monde en parle super bien, considérer ce que les mêmes avaient dit du roman précédent, évidemment, il y a eu une évolution. Et Francesco Verci fait partie d'un mouvement qui s'appelle Connettivismo. C'est un mouvement qui fête bientôt ses 10 ans, disons jeunes, enfin, des gens sur la quarantaine maintenant, mais bon, ils avaient 30 ans quand ça a commencé. Et c'est un mouvement qui se veut un peu d'avant-garde, où il mélange l'écriture, les scénarios, les lectures, par exemple, les lectures en public, etc. Il mélange un peu les différentes manifestations du genre. Et ils sont très liés au cyberpunk, etc. Et c'est un mouvement qui a démarré avec trois personnes et qui maintenant fait beaucoup de têtes, en fait. Qui est très lié au transhumanisme, donc toutes les nouvelles tendances qu'on trouve aussi ailleurs, si l'on veut. Donc c'est ça, et après, je ne sais plus, je voulais parler d'autres choses. Je ne voudrais pas oublier quelque chose. Non, je pense que j'ai tout dit sur les choses importantes.
Oui.
Par rapport aux nouvelles, alors il y a aussi des petits éditeurs qui ne publient pas uniquement que de la science-fiction, qui ont commencé à publier de la science-fiction qui marche. Par exemple, Bietti. Bietti est un éditeur historique. En fait, il publiait, je pense, des trucs de droit, de loi, etc. Il a sorti il y a quelques années cette magnifique anthologie, Ambigue Utopie. Alors, Ambigue Utopie, c'est pas seulement. En Italie, c'est pas seulement un titre qui remonte à Le Guin, ça remonte aussi à une revue historique. Qui n'a pas été fondée, mais qui est liée surtout à un personnage très connu, Antonio Caronia, qui était plutôt un philosophe et tout ça. Et c'est une revue qui était publiée aux années 70 autour d'un groupe d'intellectuels qui parlait de la politique en passant par la science-fiction. Et c'était une revue de gauche. Donc cette anthologie, justement, c'est une anthologie de très très bonnes nouvelles politiques de gauche. Voilà, ça c'est. Et puis bon, il y aurait plein d'autres choses à dire.
Oui, je voudrais également faire allusion à une revue qui s'appelle IF, qui a la particularité de présenter des numéros thématiques. Alors, je connais assez bien cette revue puisque j'y ai participé. Cette revue actuellement est en train de changer de formule, c'est-à-dire elle va publier d'un côté des textes et dans d'autres numéros uniquement des articles. Mais c'est un concept apparemment intéressant de publier des numéros thématiques qui cependant ne semble pas avoir eu du succès. D'où ce changement. Alors bon, on verra ce que ça va donner.
Oui, juste une petite précision, puisque tu parlais du numéro de Lunatique qui ne correspondait ou qui ne reflétait pas la science-fiction italienne. Oui, oui. Non, mais je veux dire simplement, il y a d'abord plusieurs auteurs qui sont, je dirais, un peu des anciens dans le monde de la SF italienne et qui étaient incontournables. Et puis, un certain nombre qui proviennent d'ailleurs de la revue de Malaguti, donc Futuro Europa, qui a été une revue qui était peut-être un petit peu confidentielle, puisque je crois qu'elle ne se vendait que sur abonnement, je fais peut-être une erreur, mais qui était d'ailleurs assez volumineuse, de grand format, et qui avait le mérite de publier pas mal d'auteurs européens. Bon, moi j'ai eu la chance, si je puis dire, hein, puisque en général, les rémunérations sont inexistantes, tellement faibles qu'on ne les accepte pas, si je puis dire. Mais j'ai été publié d'abord à de nombreuses reprises dans cette revue, et on m'a même consacré un dossier assez important. Hein, tu en sais quelque chose. Bon, j'ai eu aussi la chance d'être publié dans pas mal d'autres revues italiennes. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, dans ce numéro, on a essayé aussi de donner un peu de place à des auteurs qui sont très jeunes et qui sont peut-être aussi un petit peu l'avenir de la science-fiction italienne. Alors, oui.
On a une vision d'Italie, alors on va l'enregistrer.
Oui. Je ne sais pas s'il est branché, par contre. Oui.
Voilà, ça marche. Oui, moi j'ai une vision totalement périphérique de l'Italie que je connais très mal, mais j'ai une vision d'une Italie beaucoup moins, comment dire, formatée, centralisée, unie que notre pays très jacobin. Et d'autre part, avec des diversités peut-être, tu as parlé de dialectes, des diversités dialectales, en tout cas, sans compter le nord de l'Italie germanophone. Mais est-ce qu'il y a, tu as parlé d'auteurs vénitiens, est-ce qu'il y a des typologies d'auteurs en fonction de leur origine géographique, voire même dialectale? Tu parlais d'Aldani qui utilise des formes dialectales dans certaines de ses nouvelles. Et donc, c'est quelque chose évidemment qu'on ne perçoit absolument pas à la traduction. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des auteurs qui sont marqués par leur origine géographique, voire même des variantes linguistiques?
Bon, enfin, je peux essayer de répondre enfin, très succinctement, parce que je suis pas non plus, malgré tout, un très grand spécialiste. Hein, mais ce que tu disais, d'abord, par exemple, un auteur comme Renato Pestriniero, qui écrit pratiquement, presque toutes ses histoires sont centrées sur la ville de Venise. Tu as d'autres auteurs. Alors, là aussi, une petite précision également, qui divise d'ailleurs le fandom italien, et je pense pas me tromper, où tu as vraiment une école, je dirais, de gauche ou d'extrême gauche, et une école qui est carrément à droite. Et un auteur que je connais bien, que j'apprécie d'ailleurs, je l'ai même invité en France à plusieurs reprises, c'est Gianfranco de Turis, qui a suscité pas mal de polémiques parce que effectivement, il a une vision qui n'est peut-être pas celle qu'avaient des auteurs comme Aldani, qui était d'ailleurs très marqué politiquement. Il a été maire de sa commune, il était très marqué à gauche, il a été publié notamment dans les pays de l'Union soviétique de l'époque. Enfin voilà. Donc il y a des différences d'abord politiques et puis des différences effectivement culturelles. Il est évident qu'un écrivain des pays du Sud ou de différentes régions du Nord est souvent marqué d'une part évidemment par son emplacement géographique, culturel ou ses origines, et puis d'autre part il y a le problème des dialectes en Italie qui est assez important, contrairement à ce qui s'est passé en France. Je dirais que la centralisation de la langue ne s'est pas faite de la même manière. Je peux prendre un exemple particulier. Moi, quand j'étais gamin, donc mes parents, qui étaient originaires de la région de Venise, parlaient plutôt un dialecte de cette région. Et j'ai une anecdote d'ailleurs, c'est que la première fois où je suis allé en Italie, je prends cet exemple comme ça, pour moi, une chaise, c'était una carrega. Et là, heureusement, il y en a qui comprenaient ce que je voulais dire, mais on m'a dit non, une chaise, c'est une sedia. Et alors, une autre originalité, c'est que j'ai appris que dans certaines régions du dialecte de la région d'Auvergne, notamment dans la région de Thiers, une chaise, c'est une acarègue, par exemple. Enfin bon, cela dit, quand j'étais enfant, en tout cas, on recevait pas mal d'amis italiens où on allait chez eux. Et par exemple, j'avais une amie qui était une amie de mes parents qui était de Bergame. Et là, par contre, je ne comprenais absolument pas ce qu'ils se disaient parce que c'était presque un accent allemand. Enfin bon, voilà. Mais donc, forcément, les écrivains italiens, en tout cas certains, et c'est le cas de Lino Aldani, utilisaient, ou lui l'a utilisé assez souvent, de temps en temps, dans ses histoires, des mots de dialecte.
Oui, oui. Je voudrais poser une question. Enfin, je l'avais posée à Gianfranco de Théris. Est-ce qu'il existe une science-fiction écrite dans les dialectes locaux? Il m'a dit, je ne sais pas. Je pose la même question à Serena Verri.
Bah, je pense que les dialectes sont beaucoup moins marquants maintenant en Italie. Il y a plutôt des expressions typiques de certaines régions. Cela dit, les régions et les villes restent très importantes dans notre culture. Moi, je me sens milanaise bien avant de me sentir italienne. En fait, moi, je ne me sens pas italienne du tout, mais je me suis toujours sentie milanaise. Même si mes parents, enfin ma mère est sarde, et j'adore tout ce qui concerne la Sardaigne, et ma grand-mère paternelle était de Venise. Donc j'ai plusieurs origines, mais ma culture est milanaise. Et je pense que ça, c'est très présent dans la culture italienne. Par exemple, là-dedans, on a une nouvelle de Claudio Schutti. Claudio Schutti est génois, de Gênes. Lui, il écrit toujours des histoires basées à Gênes. Et justement, il y a Pestriniero, mais on a tendance effectivement à raconter des choses qui, bah, c'est vrai de tout le monde, je pense, même les Français aussi, si quelqu'un est de Paris, il parle de Paris, etc. Mais je pense qu'en Italie, vraiment, on a plus ce côté local. On s'identifie beaucoup plus dans la région ou même dans la ville où on est né et on a grandi.
Ah oui. Donc, tu ne peux pas répondre à la question s'il y a de la science-fiction. Parce qu'en France, on a une science-fiction, un peu de science-fiction occitane et provençale.
Oui, ce que tu as dit sur les villes est très intéressant parce que ça vient de l'histoire de l'Italie, évidemment. Pas du tout la même que l'unité centralisation française. Et c'est vrai qu'en France, peut-être, on a quand même moins de science-fiction. On a de la science-fiction qui peut être parfois régionale, mais on a moins de science-fiction sur l'attachement à une ville. Et comme tu l'as très bien dit, effectivement, les villes en Italie ont cette espèce, ce sont des attracteurs culturels extrêmement puissants et identitaires aussi. Effectivement, ça doit se voir beaucoup plus dans la science-fiction italienne.
Oui.
Ce qui fait une des spécificités, sans doute, du genre en Italie.
Oui, mais il faut aussi préciser une chose, c'est que bon, en France, l'édition est très centralisée sur Paris, alors qu'en Italie, et il y a des éditeurs un peu partout, pas seulement à Rome, mais à Milan.
Non, 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 l'édition est surtout à Milan. Il y a évidemment aussi d'autres éditeurs un peu partout. Mais
oui, il y avait Nord avant, dans le nord de l'Italie, qui publiait une collection de science-fiction importante. Oui.
Nord était à Milan.
Oui, c'est à Milan.
Oui, c'est à Milan.
Oui, mais Milan est le centre de l'édition en Italie, de toute l'édition en général. Oui. Non seulement
il y a Fanucci à Rome.
À Rome.
Oui, mais c'est
un cas particulier.
Oui, c'est un cas particulier.
Vous avez Mandalori aussi. On a demandé au passé.
Oui, non, c'est ça, la plus grande maison d'édition.
Qui a édité